jusqu'à 14h. On en jase.
Bon. On en jase à Boulevard 101, ton émission d'actualité. On parle d'actualité locale, comme on l'a fait avec les voyages de Bruno Marchand, d'actualité également provinciale. Puis on parle des grands enjeux, surtout ce qui se passe aux États-Unis présentement avec la guerre en Iran. Dans ce qui vous touche beaucoup, il y a la météo. Présentement, c'est 1 degré, mais attention, il pourrait y avoir des averses de neige et de bruine verglaçantes aujourd'hui. Ça passe à moins 5 cette nuit, 4 degrés demain cependant, alternant soleil et nuages. Il n'y aura pas de précipitations. Les précipitations reviennent vendredi avec un 5 degrés. Ça sera de la neige ou de la pluie, dépendamment du moment dans la journée. Samedi, c'est 3 degrés, seulement 30 % de possibilité d'averses. Et dimanche de Pâques, 10 degrés. Mais de la pluie. Je vous rappelle également que GasBuddy vous permet de regarder quel est l'endroit le meilleur pour votre prix d'essence parce que qui dit prix d'essence dit grande semaine. Et quand il y a une grande fin de semaine, comme là, le congé de Pâques, ben, le prix de l'essence augmente tout le temps et c'est le cas. Et d'ailleurs, Mathias Turcotte va nous faire un excellent dossier dans l'émission Marceau le matin, demain matin, à savoir pourquoi ça augmente tout le temps quand on arrive à l'approche de ces grands dossiers. Et il y a également la régie de l'énergie via régie de l'essence qui a fait une carte interactive, mais qui va être à peaufiner là, après essai de Pascal CV, Mathias Turcotte et Jeff Fortin. Pascal, avant qu'on parle à Leslie Hill, directrice nationale de la DPJ, il y a de la circulation à mentionner et également quelques manchettes.
Oui, l'autoroute 40 Est à la sortie de la route 138 Ouest est partiellement entravée. Il y a une panne là, Jeff. Sinon, Henri IV Sud à la hauteur chemin Sainte-Foy, c'est la voie droite qui est bloquée. Accident, mais la remorqueuse est sur place. Ça devrait se résorber dans les prochains instants. Il y a une nouvelle politique qui se découpe en trois. La première, c'est Lionel Carman qui revient au sein de la CAQ plus tôt que prévu. Il va être là jusqu'à la finale, à la sortie de son ami François Legault. Il a dit qu'il a été ses termes n'étaient pas ça, mais moi, je l'ai senti comme en train de dire « Il a été charmant dans mon départ. » Alors, mm-hmm. Moi aussi, je serai charmant en revenant d'avance avec lui. L'élection de Christine Fréchette pourrait mettre la carte dans de bonnes positions. Elle pourrait permettre au parti de sauver sa peau aux prochaines élections. On voit une légère remontée quand même. Par contre, ça n'a pas dépassé le Parti québécois et le Parti libéral qui, eux, dans le dernier sondage léger fait du 20 au 22 mars dernier, se retrouvent maintenant nez à nez avec 33% des intentions de vote. Le président américain Donald Trump doit s'adresser à la nation ce soir 21h au sujet de la situation en Iran. Il y a également la mission Artemis 2 de la NASA qui doit décoller aujourd'hui à 18h24. On suit ça. Mais la nouvelle qui nous concerne en ce moment, Jeff, c'est pour notre prochain invité parce que Québec va présenter une nouvelle stratégie sur la protection de l'enfance avec l'intention de réaliser un virage en misant sur les services de prévention. Et c'est une nouvelle obtenue par Radio-Canada. On a parlé de la stratégie qui vise à recentrer l'intervention de la DPJ pour les situations où elle est vraiment nécessaire.
On a justement au bout du fil Leslie Hill, qui est directrice nationale pour la direction de la protection de la jeunesse. Madame Hill, merci beaucoup d'être disponible pour nous à l'émission d'Angers.
Merci à vous.
Madame Hill, je lisais qu'il y avait une hausse de 110 % des signalements de négligence à la DPJ depuis 20 ans. Et devant ce constat, vous avez décidé d'attaquer le problème. De quelle façon allez-vous vous y prendre?
Ouais, peut-être juste une précision, c'est une hausse globale de tous les signalements, y compris la négligence.
Ah, d'accord.
Mais la négligence, c'est quand même la moitié des suivis en protection de la jeunesse. Donc, il faut s'attaquer aux besoins de ces familles-là, surtout. Donc, le virage, c'est vraiment un virage vers des services plus précoces et plus intensifs en première ligne. Mm-hmm. Donc, ça veut dire le développement de nouveaux modèles de services pour aider les familles dans la communauté.
Donc, comment on va faire le tout? Parce que, bon, moi, pour déjà avoir travaillé dans des centres communautaires, ça m'est arrivé de faire des signalements à la DPJ parce que, par exemple, un jeune à répétition arrivait, il n'y avait pas de lunch pour son dîner. Un jeune arrivait, hop, je remarquais des marques sur son corps qui n'étaient pas normales. Donc, comment on va procéder, justement, pour plus prévenir ces cas-là plutôt qu'en arriver au signalement?
Bien, mon but, c'est pas de diminuer les signalements. C'est d'assurer les bons services au bon moment aux bonnes personnes. Donc, je pense que si on voit des marques sur le corps des enfants ou on est inquiet sur les enfants, il faut continuer à les signaler. Mon but ici, dans ce virage-là, c'est vraiment d'essayer de dire, d'une part, la protection des enfants, c'est pas l'affaire d'une loi, c'est l'affaire d'une société et c'est l'affaire d'un ensemble de services publics. Donc, c'est le renforcement des services de première ligne et la capacité capacité de donner des services aux gens dans leur communauté. Maintenant, la négligence peut avoir des très graves impacts, surtout sur les jeunes enfants. Donc, c'est pas une banalisation des effets ou des impacts de la négligence. Mais faut-il être capable de discriminer ou discerner? Est-ce que c'est de la négligence parentale ou c'est des conditions de vie adverses, des besoins sociaux? Est-ce que c'est les conditions de vie? Est-ce qu'on doit travailler différemment avec ces personnes-là? Et peut-être c'est les deux. On a des parents qui sont prises avec toutes sortes de problématiques, des fois en lien avec la dépendance, par exemple. Donc, on a besoin de donner divers services, mais pas nécessairement par une prise en charge par un DPJ.
Madame Hill, c'est toujours un plaisir que vous acceptiez notre invitation en entrevue. Il y a des choses, par contre, dans tout ça qui ne sont pas claires pour nos auditeurs. Ce n'est pas tangible dans la compréhension. C'est quoi les changements qui seront réellement apportés? Puisque Régine Laurent, avec sa commission Laurent, avait tellement mis de choses claires dans ces points qu'il fallait changer. Quand on nous arrive avec des documents comme ça, c'est peut-être un peu lourd parfois. Là, on comprend que ça va être divisé en deux mesures. Une pour les services où il y a de la négligence faible et modérée, puis une autre qui est plus urgente, en fait.
Non, j'invite vraiment les gens qui sont intéressés d'aller voir les documents sur Internet parce que il y a 40 mesures dans le plan de mise en œuvre et c'est tout en étroite continuité avec la Commission Laurent. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est prendre la vision de la Commission Laurent, essayer de regarder où est-ce qu'on est rendu. Ça, je suis en train de faire ça présentement, le bilan des 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans qu'on a publié ce rapport-là. Donc, on apprécie ce qui est fait, mais on apprécie aussi ce qu'il faut continuer à faire. Et pour moi, l'enjeu ici, c'est le virage vers une autre façon de voir la protection des enfants au Québec qui inclut des services communautaires de protection dans la communauté. Puis ça veut dire le renforcement des services dans les CLSC, par exemple.
Okay,
faut qu'ils soient en mesure.
Donc, ça va en lien avec l'annonce de Mme Bélanger de vendredi dernier. Ceci dit, puis je vous donne des exemples concrets, d'accord? Est-ce que ça va être le retour, par exemple, des collations à l'école? Parce que ça permet aux jeunes de manger.
Bien, non, parce que c'est une stratégie qui est santé et services sociaux. C'est pas une politique gouvernementale où on a des mesures de plusieurs ministères. Mais c'est vraiment comment nous, on veut, en santé, services sociaux, s'attaquer aux problématiques sociales qu'on voit.
Oui, mais parlez-nous concrètement pour l'auditeur puis pour nous. Là, c'est quoi concrètement que vous allez faire? Il va-t-il avoir plus de ressources dans les centres communautaires? Comment on va faire pour aller chercher ces familles-là que le parent n'est pas nécessairement un mauvais parent, mais qu'il est négligent par son contexte à l'heure actuelle?
Est-ce que c'est dans la communication, comme Mme Laurent le demandait, entre les intervenants, soit les enseignants, la DPJ et les hôpitaux, d'avoir un peu moins de discrétion puis d'aller au fond des choses entre eux, que la communication soit ouverte?
Oui, mais c'est ça et c'est aussi développer des modèles qui n'existent pas. Donc, le CLSC doit aller dans les communautés, doit être accessible parce que les familles qui sont en contexte de vulnérabilité, malheureusement, c'est pas eux autres qui cognent à la porte du CLSC. Puis présentement, même s'ils cogneraient, les services qu'on arrive à y offrir ne sont pas suffisamment intensifs pour infléchir des problématiques sociales comme la négligence envers les enfants. Donc, on a besoin de modèles renforcés où on donne de l'intensité, où on va dans les milieux de vie du monde pour essayer de les aider et où on fait beaucoup de contacts, vous avez raison, avec les garderies, avec l'école, avec les organismes communautaires pour voir ensemble on fait quoi pour entourer ces familles-là. Parce que si on ne le fait pas, ils vont finir signalés à la DPJ avec très peu de moyens du côté de la DPJ aussi. Donc, ce que je vois, c'est vraiment un débalancement de financement où on a énormément investi des services de protection de la jeunesse, les services spécialisés, et on a peu investi pour développer des modèles qui sont capables d'aider le monde autrement. Donc, c'est vraiment ça le virage en lien avec la négligence. Puis c'est sûr que ça présuppose aussi un regard sur le financement pour voir comment on arrive à faire ce virage-là. Donc, ce qu'on annonce, c'est une stratégie avec un plan d'action aussi. Donc, si les gens vont voir, ils vont voir le plan de mise en œuvre. Il y a 40 mesures dans ce plan de mise en œuvre-là, avec 34 millions qu'on va mettre pour essayer d'aider les établissements pour faire le virage, pour développer les modèles innovants, pour les évaluer. Mais c'est sûr que c'est une transformation qu'on souhaite, là. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui est désiré.
Madame Hill, vous êtes directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse. On vous remercie infiniment pour le temps accordé à l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Leslie Hill, directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse. On a immédiatement au bout du fil Nancy Audette, journaliste, auteure, conférencière et ex-enfant de la DPJ. Elle est spécialiste justement en matière de la protection de la jeunesse. Nancy, merci beaucoup pour ton temps pour l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Nancy, on vient de parler. Je sais que tu as écouté à Leslie Hill, qui est la directrice nationale. Puis ce que ça me dit, c'est que c'est encore des affaires bureaucratiques qui ont été faites, des organigrammes, des actions stratégiques, mais il n'y a rien encore qui aboutit sur le terrain. C'est décourageant.
J'ai beaucoup de respect pour Mme Hill. Tu sais, je tiens à le dire. Je pense qu'elle a hérité d'un système qui est profondément dysfonctionnel. Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait plus par quel bout les prendre. Puis tu as raison, tu sais, c'est une machine qui est rendue tellement grosse, une machine qui nous coûte des millions de dollars, mais qui a perdu en cours de route tout son humanisme, toute sa raison d'être. Quand on parle de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est une organisation qui doit protéger les enfants puis les jeunes les plus vulnérables de notre société. Mais cette humanité-là, là, nécessaire, elle n'est plus, ou en tout cas, plus au rendez-vous comme elle devrait l'être. Il y a des petites parcelles, des fois. Je vois des petites parcelles de beau. Puis on m'accuse souvent de ne pas parler assez du beau. Mais je vois tellement de détresse. Je vois tellement de pas beau. Que tant que ça va être présent, tant qu'il va y avoir autant de gens qui vont souffrir à l'intérieur de ce système-là, on ne pourra pas faire ressortir le beau. Mais au bout de la ligne, quand on parle de 34 millions, vous savez, on a besoin de beaucoup plus que ça pour renverser la situation au Québec. Juste quand on parle de centres jeunesse, là, le tiers des centres jeunesse au Québec sont dans un état lamentable. Lamentable. Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment là qui accepterait que ses enfants habitent dans des conditions comme ça, même physiques. Fait que même le 32 millions, juste pour mettre à jour puis offrir un milieu de vie sain à ces enfants-là, c'est rien. On n'est même pas capable de faire ça. Fait que j'essaie de m'accrocher à chaque petit brin d'espoir, mais en ce moment, mon réservoir il est assez bas, là, je vous dirais.
Madame Audet, vous avez été bénéficiaire. Deux, vous luttez énormément pour les droits de ces enfants-là. Pour nous, c'était pas concret, la dernière annonce. On parle d'argent. L'argent, on comprend où ça peut être investi, mais dans les mesures qui seront apportées, dans les priorités là, à changer drastiquement. Entre autres, Mme Laurent parlait des communications, on l'a évoqué, que tout le monde puisse se parler, parce qu'un enfant qui arrive à l'école désorganisé, s'il se fait chicaner en plus par son prof, qui n'était pas au courant qu'il y a eu de la violence la nuit dernière chez lui, ça n'aide pas, il est ostracisé. Il y avait des choses comme ça qui étaient apportées. Je m'excuse, c'est long le témoignage, mais c'est pour apporter toute l'information. On ne comprend pas ce qui est concrètement changé. Ça ne nous aide pas à embarquer dans la lutte avec vous. Les auditeurs demandent du concret. En avez-vous?
En fait, là, on tente de mettre des choses en place actuellement, mais il y a énormément de ce que je comprends de la résistance à l'intérieur même du système. J'en ai rencontré moi-même dans les dernières semaines. Vous savez, tu sais, moi, j'ai fondé un OBNL qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ et je vois une fermeture complète à l'extérieur, aux solutions qui sont à l'extérieur du système. Quand tu parles de communication, tu as raison. C'est un problème qui existe depuis plusieurs années. C'est comme si on se cache derrière la confidentialité des dossiers. On dit qu'on veut protéger les enfants. Mais en voulant cacher des informations qui sont cruciales pour la sécurité, pour le développement des enfants. Quand on se referme, quand le système se referme sur lui-même, bien, il referme les enfants avec lui. Puis c'est très, très, très dommageable. Et cette ouverture-là dont on nous parle là, depuis plusieurs années, là, on la voit pas, cette ouverture-là, sur le terrain. Ça ça n'existe pas encore à l'instant où je vous parle.
Oui, parce que moi, Nancy, message, là...
Puis ça fait des années, là, ça fait des années qu'on en parle. Fait que visiblement, il y a un endroit, là, où ça passe pas. Je sais pas où ça passe pas, mais il y a un endroit, visiblement, ça se rend pas, là.
Non, en effet. Parce que là, mon NC, je m'attendais à une annonce de première ligne. Fait que je me disais, parfait, on va arriver avec des actions concrètes. Donc, on va dire, parfait, dans les écoles, voici comment on va aider ces familles-là. Parce que les familles passent tout le temps, anyway, par le milieu scolaire. Puis comme je l'ai dit, il y a des parents, des fois, qui sont négligents, mais juste négligents par manque de moyens, non pas négligents par méchanceté. On va doter les centres communautaires, justement, d'actions concrètes qu'ils vont pouvoir faire. Mais là, je sens pas ça au niveau de la direction de la protection de la jeunesse. Je suis tellement abasourdi. On fait juste s'émouvoir quand il y a une petite fillette à Grimby comme ça, quand un événement comme ça arrive. Puis après ça, business as usual.
Ça, on est quand même à quelques mois d'une élection. Je pense pas qu'on a les moyens en ce moment de changer quoi que ce soit. Ce qu'on voit autour de nous, c'est des organismes qui sont à bout de souffle. C'est des organismes à qui on a coupé le financement. Des organismes qui pourtant sont là sur le terrain pour aider les familles vulnérables du Québec puis les enfants. Puis on vient encore charcuter. J'aimerais bien ça savoir concrètement là où on compte investir cet argent-là parce que c'est l'inverse qu'on voit. Ou ce qu'on voit souvent, c'est qu'on enlève d'un côté puis on redonne de l'autre. Je sais pas si vous comprenez, c'est très, très malsain ce qui se passe actuellement au Québec au niveau du communautaire. C'est pas pour rien qu'un grand mouvement en ce moment, le communautaire à bout. Mais je fais partie de ceux qui pensent que la solution, elle se situe à l'extérieur du système. Parce que les enfants qui sont institutionnalisés depuis des enfants, puis depuis des années, puis des jeunes aussi, on se rend compte qu'ils répondent mieux à l'extérieur du système. Mais ça, c'est d'avouer, hein, c'est tout ça, c'est aussi c'est une guerre d'égo, hein. C'est d'avouer que la solution, ben, elle est peut-être pas à l'intérieur du système. La solution, moi, je pense qu'elle est à l'extérieur du système parce qu'il y a plus d'humanité à l'extérieur, dans ce qu'on voit dans les organismes, dans les intervenants. Les jeunes qui sortent de la DPJ à 18 ans, on leur offre des services. Hein. Vous savez, il y a des services maintenant qui existent après 18 ans, mais les jeunes sont tellement blessés. Ils ont tellement vécu de violences institutionnelles qu'ils veulent plus rien avoir avec ce système-là. Fait qu'il y en a qui préfèrent aller à la rue, dormir dans une tente, qu'être encore... être obligé encore de travailler avec ce système-là. C'est triste. C'est triste. Puis tant qu'on va pas adresser ça, tant qu'on va pas faire de vrais changements structurels, on va pas s'en sortir. Puis pour l'instant, je le vois pas. Je les vois pas, ces changements-là. Je vois pas les désirs. On a beau parler autant qu'on veut, mais concrètement, là, des actions concrètes, il y en a pas pour l'instant. Puis ça, c'est dommage, parce que dans quelques années, tout le monde, vous, moi, la société, tout le monde, on va tous payer le prix de ça. Parce que des enfants institutionnalisés, il y en a tellement en ce moment au Québec, ça ne fait aucun sens. Ils sont tout petits, là. On a des unités, là, c'est des petits-enfants de 4-5 ans qu'on place dans des unités, dans des petites mini-chambres, pas d'humanité, pas d'affection, pas d'amour. Beaucoup de conséquences toujours au niveau de leurs gestes, hein, au niveau de leur comportement, mais pas beaucoup de soins spécialisés.
Exactement.
Puis tu sais, il y a une perte d'expertise, là, vous le savez, là, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, il y a une pénurie. Tu sais, quand tu as vécu des traumatismes, là, ou quand tu as été retiré de ta famille, tu as besoin de soins spécialisés pour guérir. Il n'y en a pas, là. On n'offre pas ces services-là pour permettre aux jeunes et aux enfants de guérir de leur trauma.
Nancy Audet est journaliste, auteure, conférencière, ex-enfant de la DPJ. Elle a parti son propre organisme justement pour les aider lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, éviter l'itinérance. On te remercie beaucoup pour le temps passé à l'émission On en jase aujourd'hui, puis on va souhaiter que le prochain gouvernement soit meilleur que celui de la CAQ. Merci, Nancy!
Merci, au revoir.
Salut, Nancy Audet. Toujours intéressant de parler avec elle des cas de la DPJ. Donc, très déçu, moi, personnellement. Je m'attendais à quelque chose où on allait plus travailler sur le terrain quand on me parlait de services de première ligne. Et là, après avoir parlé avec Leslie Hill, directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse, je me rends compte qu'on a encore créé un bel organigramme, un beau projet dans les autres sphères stratégiques, mais que ça ne changera rien pour l'enfant qui vit de la négligence à l'heure actuelle.
Une affaire qui peut me rassurer. assurer, c'est les fameux points, là, on va les voir, mais s'ils sont basés sur, en partie, la commission Laurent, à ce niveau-là, ben on peut être un peu encouragé. Ouais. Parce que c'était quand même clair et précis ce qu'elle demandait. Je me rappellerai toujours du podcast qu'elle avait enregistré avec François Legault. François Legault était tellement venu petit dans ses shorts-là parce que probablement qu'il s'attendait à une conversation qui allait l'idée. Puis c'est Mme Laurent qui a pris le micro puis qui avait l'air de tout accabler la plus performante dans ce podcast-là. Puis je dois dire, Jeff, qu'il y a un point en commun avec une autre chose dont on a discuté hier.
Vas-y donc.
Puis c'est les établissements scolaires. La décrépitude totale de nos écoles, le fait que ça n'a pas été pensé, que ça n'a pas été planifié en amont, qu'on est en train de faire des locaux temporaires qui finalement vont coûter la même chose qu'une nouvelle école parce qu'ils ne sont pas temporaires. Ça veut dire, hier, on avait un dossier complet là-dessus. Puis c'est la même chose aujourd'hui avec ce qu'on entend de la DPJ. On dit qu'il faudrait tout mettre à terre pour être capable de recommencer. Ça ne peut pas être ça la solution. Mais chose certaine, c'est pas en changeant de gouvernement constamment puis de mission que ça va se passer puis ça va être mieux. Ça se demandait si des fois, Jeff, dans une passation d'un gouvernement à un autre, d'une équipe à une autre, il ne faudrait pas des choses qui ne bougent pas. Même si la vision entre des parties est différente, il faudrait voir où est-ce que ça ne devrait pas bouger quand quelque chose est entamé.
Ouais, dans le cas de la DPJ, par exemple, les hauts fonctionnaires qui travaillent, les gens qui sont à l'emploi de la DPJ ne bougent pas. Là,
mais c'est les projets, les visions bougent, par contre. Puis c'est ça qu'il faudrait voir sur celles qui sont entamées. Mm-hmm.
Beaucoup de réactions par texto, des gens qui disent hey, « Pourquoi on dépense des milliards dans plein de projets qui aboutissent jamais, mais qu'on travaille pas justement sur les vraies choses, c'est-à-dire prendre soin des enfants? » François qui travaille dans le communautaire qui nous disait « Il y a de la moisissure dans les centres jeunesse. Ils veulent que le communautaire en fasse plus, mais sans donner de ressources. » On a également une personne qui nous a écrit qui est un enfant du système de la DPJ qui dit qu'il faut vraiment justement aider les parents pour que les enfants soient élevés convenablement. Continuez de réagir au 418-971-1021. Dans un instant, Boulevard 1021, on va parler avec Mylène Moisan qui a fait le parcours des 12 travaux d'Astérix pour tenter d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille, même si elle en a un. Et on va également parler avec l'astrophysicien Robert Lamontagne qui va nous parler de la mission Artemis 2, décollage prévu aujourd'hui. Donc, Robert Lamontagne est astrophysicien et chargé de cours à l'Université Laval. Mylène Moisan, on va lui parler des médecins de famille. Pourquoi, Pascal? Parce que François Legault a dit ceci tantôt dans une de ses dernières prises de parole à l'Assemblée nationale.
C'est quand on est arrivé à la suite des libéraux, il y avait au Québec 6,4 millions de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille ou un GMF. Il y en a aujourd'hui 7,4 millions et on en aura bientôt 7,5 millions d'ici le 30 juin, ce qui devrait répondre à la demande de tous ceux qui veulent avoir accès à un GMF.
Mm-hmm. Ben, ça n'a pas été le cas de Mylène Moisan. Elle nous raconte ça après la pause. Circulation avant de passer à la pause, Pascal.
Autoroute 40 est sortie 138 ouest, partiellement entravée. Il y a une panne. Sinon, il y a un accident qui attire beaucoup l'attention. Ça ralentit le secteur. Puis là, tu as tous les services d'urgence qui sont sur place. Sur Henri IV Sud, hauteur chemin Sainte-Foy. C'est la voie de droite et maintenant la voie centrale aussi qui sont bloquées pour procéder justement aux interventions d'urgence.
418-971-1021. C'est-tu facile pour vous d'avoir accès à votre médecin de famille ou si vous n'en avez pas, de prendre le guichet d'accès unique et de vous rendre en clinique? Mylène Moisan, ça n'a pas été facile pour elle? Moi, c'est pas facile pour moi, même si je suis une médecin de famille. Je ne sais pas pour toi, Pascal, c'est facile. Mais bref, textez-nous au 418-971-1021. On parle de ceci dans un instant à Boulevard 1021 à l'émission On en jase.
À Boulevard 1021. Jusqu'à 14h, on en jase. Boulevard 1021. Avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
Émission d'En jase sur Boulevard 101. Il est présentement 13h02. C'est ton émission du midi d'actualité. Tu te demandes hey, pourquoi j'écouterai d'En jase? Bien, premièrement, parce que tu vas être premier sur la nouvelle. Ce qu'on vient de parler avec Leslie Hill, directrice de la nationale de la protection de la jeunesse. Et également Nancy Audet, qui est conférencière, qui a créé son propre organisme pour aider les jeunes de la DPJ qui sont pitchés d'or à 18 ans vers l'itinérance, ben sache que si tu as un téléphone intelligent comme moi, bang, c'est la nouvelle qui vient de popper sur ton téléphone. Fait que tu as tout su ça avant à l'émission On en jase. C'est notre mission, c'est de vous informer des grands enjeux de Québec, de la région de Québec et aussi à la grandeur de la province. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous joindre par texto blvd.fm. Tu peux nous écouter via la web radio, même aller réécouter les meilleurs moments. Je vais mettre à rater les deux entrevues, justement. Elles seront disponibles après l'émission. BLVD 1021, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD ». On arrive dans vos oreilles. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 1021. Le caucus avec Antonine Niacarini, tu l'as raté? C'est pas grave, il va être sur la page YouTube. Pascal CV, encore une grosse journée en actualité. Quelles sont les principales nouvelles, justement, pour nos auditeurs auditrices?
D'abord, permets-moi de compléter celle que tu as abordée il y a quelques instants. C'est l'enveloppe de 34 millions de $ sur 3 ans pour la nouvelle stratégie de la DPJ, c'est Québec qui prévoit cette enveloppe-là. C'est une mesure qui est une recommandation de la commission Laurent. Alors, rappelez-vous, il y a quelques années, on s'était penché là-dessus. La stratégie, ben, elle se réalise en plusieurs points. C'est un peu flou encore. Il va falloir avoir un petit peu plus d'informations. Au début, c'était Radio-Canada qui avait mis la main là-dessus. Là, tous les médias ont réussi à avoir l'info, mais ça vise à recentrer l'intervention de la DPJ pour des situations où elle est vraiment nécessaire. Ça veut dire quoi? À place d'être constamment en urgence, même quand vient le temps de gérer des négligences faibles ou modérées, on va être capable de découper là, en segments cette façon de recourir aux mécanismes de protection de la jeunesse pour mieux servir un peu tout le monde là-dedans. Et c'est un communiqué qui nous vient aussi du cabinet de la ministre de la Santé qui indique qu'en 20 ans, le nombre de signalements à la DPJ s'est augmenté de 110%, mais les services de première ligne sont toujours très sollicités. Surprise à l'Assemblée nationale, eh bien, Lionel Carman annonce son retour à la CAQ, hein, et c'est plus trop prévu. Alors, on a mentionné que l'ex-ministre a choisi d'accompagner son ami François Legault jusqu'à sa sortie. Il a trouvé gentleman de la part de François Legault d'avoir géré le moment de sa sortie de la politique. Alors, il veut être gentleman à son tour et l'accompagner vers sa propre sortie. Et il envisage aussi un retour de Christine Fréchette, en fait, comme étant quelque chose qui va faire revivre la CAQ. Et peut-être qu'on voit un peu l'impact de ce que Lionel Carman dit, parce que cette élection de Christine Fréchette, si elle a lieu à la tête de la CAQ, ça permettrait peut-être au parti de sauver sa peau aux prochaines élections. C'est ce qu'indique un sondage léger réalisé pour le compte de l'équipe de Mme Fréchette. Et dans ce sondage-là, Jeff, on a su que du 20 au 22 mars, les personnes sondées ont mis nez à nez le Parti québécois et le Parti libéral du Québec dans les intentions de vote. Les deux se pointent à 33%.
On écoute Lionel Carman, ce qu'il avait à dire sur son chum, François Legault.
C'est quand on est arrivé à la suite des libéraux, il y avait au Québec 6,4 millions de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille ou un GMF. Il y en a aujourd'hui 7,4 millions et on en aura bientôt 7,5 millions.
Ça, c'est François Legault, par exemple.
Okay, okay. Ce qui devrait répondre à la demande de tous ceux qui veulent avoir accès
Arrête là, au pire, et on peut...
OK, erreur de manipulation. Lionel Carman.
Puis je tiens à rappeler aussi que quand j'ai quitté, ben François, il était là pour moi. Puis ça a été un moment incroyable. Et c'est important pour moi d'être là avec lui cette dernière semaine. François, là, c'est un grand homme politique, un grand chef d'État. Il a fait plus que quiconque en services sociaux puis en jeunesse. Puis je tiens à le redire. Et je suis très heureux que notre aventure à la CAQ se termine comme elle a commencé, ensemble.
L'amitié est une belle valeur, c'est ce que Lionel Carman a laissé transparaître aujourd'hui. On va en parler aux alentours de 13h20 avec Lambert Drainville, qui a été justement chef de cabinet pour Lionel Carman. Il connaît bien les deux hommes, donc on va parler de cette amitié-là. L'extrait que vous avez entendu auparavant, c'est l'extrait que j'avais fait jouer concernant François Legault, qui dit « Tout le monde, via le GAP, va avoir accès à un médecin ». Bien, M. Legault, dans nos auditeurs présentement, je vous dirais que c'est à peu près 10% des gens que c'est facile d'avoir accès à leur médecin de famille ou à un autre médecin via le GAP. 90% des gens disent « Je ne suis jamais capable d'avoir de rendez-vous ».
On a appris une triste nouvelle, c'est le décès de l'auteur, scripteur, metteur en scène et réalisateur Louis Saillat, 75 ans, suite à une courte maladie. C'est une figure phare de la comédie québécoise. Il était depuis 55 ans associé à d'immenses succès au cinéma québécois, là, au théâtre aussi, à la télévision, entre autres avec Paul et Paul, mais surtout, surtout les Boys.
OK. Les blacks sont gros, sont forts. Des gros, c'est pas. Font peur. Font peur! Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Pense que oui, moi. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness! La dureté du mental!
Je te dirais que ça en prend dans le système de la santé à l'heure actuelle, qu'on soit patient aux travailleurs.
Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la CAQ, passe pas par quatre chemins, c'est ce qu'on écrit dans la presse. Et on omet de dire que 125 000 immigrants obtiendraient le feu vert pour la résidence permanente avec la clause de droit acquise qui promet donc sa rivale Christine Fréchette. Encore une fois, on s'attaque dans cette course-là, Jeff, et c'est une prise de parole qui est hautement pointée du doigt en ce moment. L'immigration chauffe les deux candidats à la chefferie de la CAQ encore aujourd'hui. La mission Artemis 2 de la NASA doit décoller aujourd'hui à 18h24. Ça marque le premier vol habité en direction de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. C'est prévu au Centre spatial Kennedy en Floride avec des conditions météo jugées favorables. Autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est le discours de Donald Trump ce soir 21h. Donc, le président américain qui parlera de la suite de la situation en Iran. Il a d'ailleurs affirmé que les États-Unis pourraient se retirer du conflit très bientôt. On évoque un délai de 2 à 3 semaines sans condition liée à un accord. Par contre, le président du nouveau régime iranien, il est moins radicalisé, beaucoup plus intelligent, on dit, au niveau de conversation internationale que ses prédécesseurs. Et il vient demander un cessez-le-feu aux États-Unis. Pour Donald Trump, ben, on va analyser la situation, surtout si on n'ouvre pas à nouveau le détroit d'Ormuz.
Elle est chroniqueuse au journal Le Soleil. Elle écrit des excellentes chroniques qui portent sur l'humain. Ce matin, elle a écrit « Avoir son médecin de famille, un miroir aux alouettes ». Mylène Moisin, est-ce que tu vis la même chose que moi? C'est-à-dire, même si tu es un médecin de famille, tu n'es jamais capable de voir quelqu'un?
Ben non, moi je suis dans les 10% de gens qui ont, moi et toute ma famille, on a d'excellents médecins de famille qui sont disponibles, donc on est vraiment parmi les privilégiés, mais je compatis avec tous ceux comme toi qui en ont pas, là. Vous êtes plus nombreux, je pense.
Ceci dit, Mylène, tu tenais à écrire ta chronique aujourd'hui, j'imagine, pour démontrer que bien qu'on fasse à croire que ça va bien, on a réglé avec les médecins de famille, qu'il y a plein de clientèles vulnérables qui sont prises en charge. Dans les faits, sur le terrain, ce n'est pas nécessairement la réalité.
Mais c'est ça ce dont je me suis rendu compte, parce que la semaine dernière, M. Legault, en chambre, pendant la période de questions, avait dit qu'il y avait 221 000 nouveaux Québécois qui étaient inscrits, des orphelins, 123 000 vulnérables. Donc, c'était vraiment présenté comme une super nouvelle. Mais bon, moi, j'ai demandé des chiffres là, au ministère, et finalement, pour me rendre compte que il y avait juste 6 000 comme personnes ou orphelins vulnérables qui avaient eu un vrai médecin attitré, que finalement, les 98 % autres là, avaient été inscrits sur des listes collectives de groupes de médecins. Donc, tu sais, c'est vraiment différent. T'sais, je dis pas que tout le monde doit avoir un médecin, mais surtout les vulnérables. Donc, ce qu'on comprend, c'est que sur les 123 000 vulnérables qui ont un médecin, il y en a juste qui ont été inscrits, il y en a juste 6 000 que c'est un médecin là, personnel, on appelle ça individuel. Donc, puis là, c'est ça, il en manque encore là, 260 000 à inscrire là, pour atteindre l'objectif de 500 000. Mais c'est sûr que ça va aller dans cette direction-là encore.
Mais ça, c'était fortement décrié par les médecins de famille lors de la dernière réforme qui a été hautement critiquée et même contestée et même manifestée, en disant là comme ça. Ce qui expliquait, c'est qu'au niveau de leur territoire, ils allaient devoir prendre une enveloppe beaucoup plus grande de patients. Comme ça, les patients auraient l'impression d'être desservis, mais il n'y avait pas plus de plage horaire. Fait que ça créait une fausseté à ce niveau-là. On risque de voir ça de plus en plus. Puis il y a finalement une belle jambe qui est créée au niveau de l'organisation, mais dans les faits, c'est pire qu'avant.
Bien, c'est ça, c'est qu'il y a des limites à agrandir par en dedans. Tu sais, à un moment donné, il y a des patients orphelins, puis il y a un nombre X de médecins qui ont un nombre X de rendez-vous qu'ils peuvent donner. Donc, ils se sont engagés à mettre 500 000 de plus par année. À la grandeur du Québec, il y a des régions où est-ce qu'il y a un ou deux médecins. Donc, on s'entend que dans ces régions-là, il n'y aura pas beaucoup de rendez-vous qui vont être rendus disponibles. Donc, on ajoute 500 000 personnes sur les listes qui vont être prioritaires. En plus, ces gens-là vont devoir encore passer par le guichet d'accès à la première ligne, appelle le fameux gap, qui était fait pour les orphelins. Donc là, par le gap, les orphelins, ils vont passer en deuxième, après les faux orphelins inscrits sur les listes collectives. Donc, ça risque de créer, tu sais, des super orphelins, des inscrits qui vont devoir se croiser les doigts pour avoir un rendez-vous, des 500 000 rendez-vous rendus disponibles par les médecins. Mais en bout de ligne, ben c'est ça, tu sais, les suivis vont être plus difficilement faits. Les personnes vulnérables là, qui n'ont pas la chance d'avoir leur médecin à eux, tu sais, c'est des personnes qui ont souvent plusieurs problèmes, qui doivent être suivies. Tu sais, moi, ma mère, elle a un extraordinaire médecin de famille, tu sais, qui s'occupe de ma mère comme si c'était sa mère, puis je veux dire, elle s'occupe des médicaments, elle s'occupe, elle fait le lien entre les spécialistes. Pour les personnes qui ont vraiment des besoins de santé assez graves, là, un médecin de famille, c'est pas un luxe.
Non, en effet. Pour rappel, on parle avec Mylène Moisan, chroniqueuse pour le quotidien Le Soleil. On parle de sa chronique aujourd'hui où elle écrit que c'est très difficile pour les patients orphelins d'avoir accès à un médecin. Mylène, ces patients orphelins-là vont avoir encore plus de difficultés parce que 22 % de nos médecins de famille ont 65 ans et plus. Aïe, aïe, aïe.
Bien, c'est ça. C'est que il y en a beaucoup qui vont aller à la retraite. Le ministère de la Santé m'a écrit ce matin. Eux calculent que c'est 20 % au-dessus de 60 ans. Mais bon, on s'entend qu'ils sont vieillissants puis qu'ils vont prendre leur retraite avant longtemps. Puis l'autre problème aussi dont j'ai eu connaissance, là, c'est que jamais les études en médecine familiale ont été aussi boudées au Québec là, pour l'année prochaine. Là, on est à 100, bon, chaque année, il y a des places qui sont ouvertes dans les facultés de médecine dans les universités. Donc cette année, là, l'année 26-27, il y a eu 550 places qui ont été ouvertes, mais à ce jour, il y en a seulement 408 qui sont comblées. Donc il y a encore 146 places pour étudier en médecine familiale qui sont pas comblées. Puis d'habitude, là, pour les trois années précédentes, ça tourne autour d'une 60-70 à peu près. Donc, tu sais, si les médecins partent plus à la retraite puis qu'il y en a moins qui rentrent dans les universités, ben on comprend que, je veux dire, le problème est pas sur le bord de se régler puis que l'attribution d'un médecin, moi, en fait, ce que je constate, c'est que faut tout presque mettre un trait sur l'idée d'avoir un médecin de famille parce que on va aller vraiment plus vers le collectif. Parce qu'il va y avoir moins de médecins, puis les besoins grandissants de la population.
En effet. Donc, Mylène Moisan, en terminant, si on avait une note à accorder à François Legault et à ses différents ministres de la Santé, après 8 ans au pouvoir, eux qui avaient promis un médecin de famille par citoyen au Québec, tu accordes quelle note? Moi, je vais d'un 4 sur 10.
Ah, moi, je vais pour 2. Juste pour l'intention.
T'es encore plus dur que moi, Mylène Moisan. Je m'attendais pas à ça. Mylène, merci pour ta collaboration aujourd'hui à l'émission On en jase. Toujours journée. Un bonheur de te lire dans le soleil et de te parler.
Au revoir.
Salut, merci beaucoup. Salut, Mylène. Mylène Moisan qui accorde une note de 2 sur 10 à François Legault. Aïe, 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 ça fera pas plaisir au premier ministre qui est en train de diriger son dernier conseil des ministres.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Du sujet de la santé, on s'en va dans l'espace. On s'en va à la Lune. On s'en va voir ce qui va se tramer aujourd'hui avec cette mission spatiale très spéciale. Pascal, avant de parler à notre invité, peux-tu nous refaire un résumé de ce qui nous attend?
La mission Artemis 2 de la NASA, ben ça décolle aujourd'hui. On a un rendez-vous à 18h24, Jeff. Et ça, oh, c'est le premier vol habité en direction de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 72.
C'est
en
incroyable.
1972, pensez-y, là. Alors, c'est prévu, comme souvent, en Floride, au Centre spatial Kennedy. Puis, en ce moment, les conditions météo sont favorables. 4 astronautes qui vont prendre place à bord de la capsule Orion, dont le Canadien Jeremy Hansen.
On a au bout du fil Robert Lamontagne, astrophysicien chargé de cours à l'Université de Montréal. Monsieur Lamontagne, comment allez-vous?
Très bien, bonjour.
Une journée comme ça, pour vous, là, ça doit être Noël avant le temps.
Oui, un peu. En fait, il y a un peu de nostalgie parce que moi, j'ai vécu la course à la Lune des années 60, fin des années 60, début des années 70. Alors donc, il y a un peu de nostalgie à constater là, que finalement, on retourne à la Lune plus de 50 ans après la dernière mission réussie.
Comment on explique ça? Parce que c'est un retour à la Lune, vous le dites, et ça vous surprend?
Ce n'est pas tant une surprise, c'est-à-dire que dans les années 60, avec le programme Apollo, il y avait cette course à la Lune entre les Américains et les Soviétiques. Le budget de la NASA a été en conséquence de remporter cette course. Il fallait, disons, gagner le pari du président Kennedy de mettre un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Et donc, à l'époque, le budget de la NASA représentait environ 4 % du PIB américain, ce qui était énorme, n'est-ce pas? Après que la course a été gagnée, l'intérêt du public a fléchi. Le budget de la NASA a aussi été diminué. Il est tombé à environ 0,5 de 1 % du PIB, ce qui est encore le cas présentement. On s'entend que 0,5 de 1 % du PIB américain, c'est quand même quelques dizaines de milliards de dollars. Mais donc, comme il y avait moins d'argent, le programme Apollo a été abandonné au profit de navettes spatiales, de stations spatiales internationales. Là, maintenant, on est dans une autre dynamique de course avec la Chine. Du point de vue américain, les compétiteurs deviennent l'agence spatiale chinoise. Et donc, les Chinois ont annoncé la possibilité de mettre des taïkonautes sur la Lune avant 2030. Et en conséquence, le président américain, dans son premier mandat, a demandé d'accélérer le retour à la Lune. Et c'est ce qu'on vit présentement.
On a un Canadien parmi les astronautes, Jeremy Hansen. Pourquoi il est « awesome » Je m'excuse pour la blague que je faisais avec mes collègues toute la journée, mais pourquoi il est aussi extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cette navette-là? Pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas plus, mais qu'on l'envoie sur la Lune?
Premièrement, il faut signaler que l'équipage de 4 personnes de la mission Artemis 2 est nettement plus représentatif de la société du 21e siècle, avec des Caucasiens, Afro-Américains, hommes, femmes et un équipage international, parce que pour la première fois, on aura un non-américain qui va aller à la Lune, Jeremy Hansen. Il est moins connu, évidemment. Il fait partie de la même promotion que David Saint-Jacques. Il a été recruté au même moment, mais dans son cas, lui, il n'était pas encore allé dans l'espace, Il va connaître donc son baptême de l'air aujourd'hui, si tout se déroule bien. Donc, il est moins connu, mais c'est quelqu'un de très expérimenté, pilote de chasse, formation universitaire très poussée. Alors donc, on va apprendre à le connaître.
Pour rappel, on parle avec Robert Lamontagne, astrophysicien chargé de cours à l'Université de Montréal. Outre dépasser la Chine dans le calendrier pour se rendre sur la Lune, à quoi ça va servir concrètement aux Américains?
Objectifs à cette mission. Sur le très court terme, dans ce cas-ci, c'est de valider la nouvelle capsule Orion. Ce sera la première fois qu'on va la tester dans l'espace avec un équipage. On a fait un premier test sans équipage à la fin de 2022. Donc, il y a toute une série de tests pour valider le fonctionnement adéquat de la capsule. Ensuite, on prépare le retour d'astronautes sur la Lune pour 2028 avec fort probablement la mission qui va s'appeler Artemis 4. Là, on aura un atterrisseur sur la Lune. Probablement 2 missions habitées sur la Lune en 2028, là, une au début puis une vers la fin. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à construire un laboratoire ou une station de recherche sur la Lune. Et là, les objectifs sont nombreux. Il y a évidemment l'étude scientifique de la Lune, qui est un peu un miroir de toute l'histoire du système solaire et de notre planète. Donc, on va apprendre à mieux connaître l'origine de notre propre planète. On veut aussi exploiter des ressources minérales sur la Lune. Il y a des matériaux intéressants, entre autres l'hélium-3 pour les réacteurs de fusion nucléaire qui sont une technologie à venir. Et puis aussi, on veut apprendre à vivre de manière prolongée dans l'espace en étant de plus en plus autonome en vue éventuellement d'atteindre la planète Mars, qui sera le prochain grand objectif dans une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine d'années.
Robert Lamontagne, merci beaucoup pour votre présence à l'émission On en jase aujourd'hui. On va surveiller ça de très près. Décollage prévu pour 18h24. Et au plaisir de vous reparler. C'est toujours captivant de parler d'astrophysique.
Ça fait un plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir. Robert Lamontagne, astrophysicien chargé de cours à l'Université Laval. Circulation, Pascal?
Incident sur Robert Cliche Sud à l'accès de l'autoroute 20 Ouest. C'est la voie de droite qui est entravée. Il y a une panne de véhicules lourds. Bonne nouvelle, par exemple, pour le secteur d'Henri IV Sud. Même si ça a ralenti, hauteur chemin Sainte-Foy, je vous disais qu'il y avait un accident là. La voie droite et la voie centrale étaient bloquées. On a résorbé le tout. Ça a un peu ralenti. Mais au moins, c'est terminé.
Dans un instant, on parle d'un chum, c'est un chum, entre Lionel Carman et François Legault, chronique de Lambert Drainville à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On a encore quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau, le soir, à Boulevard 102.1.
Moreau PRS célèbre 40 ans d'expertise. Entreprise familiale et fier distributeur Sunspace Sunrooms. Moreau PRS vous offre des patios, rampes et solariums 100% canadiens. Moreau PRS, des produits faits sur mesure, durables et conçus pour résister aux conditions extrêmes.
Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on fait économiser.
OK, ça change quoi?
Ben, vous pourriez épargner jusqu'à 600 $ en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah ouais?
Ouais. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Le Salon du VR de Québec est de retour et plus grand que jamais. Du 9 au 12 avril, au Centre de foire d'Exposité, venez découvrir plus de 200 roulottes et véhicules motorisés 2026. Plus d'une centaine d'exposants, pièces, accessoires, conférences gratuites et les dernières tendances de l'industrie. Roulez, explorez, profitez. Achetez vos billets sur salonduvr.com. Planifiez votre prochaine escapade au Salon du VR de Québec, présenté par Orbit Service d'assurance.
Aux Immeubles Roussin, on construit pour durer. Et ça commence avec notre équipe. Deux postes clés à combler, technicien comptable senior et conseiller principal en développement et location commerciale. Une carrière solide vous attend. Postulez au immeubleroussin.com.
J'ai vu ton historique sur Internet.
Je peux expliquer?
T'es accro?
Ben, c'est ce que...
Yeah, fais-toi-en pas. Moi aussi. Check les offres cette semaine sur mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ à la clinique de sécheresse oculaire. Et un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à 250 $ chez 1-800-GOT-JUNK.
Oh oui, c'est ça que je disais. Mercado.
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Couche-tard, fais votre journée avec les gros rabais du gros week-end. Du 2 au 6 avril, c'est le gros week-end de Pâques chez Couche-tard. Avec la caisse de 4 Red Bull à 8,99 $, le Pepsi 1 litre à 2 pour 3 $, le lait au chocolat Béatrice à 1,25 $ et la caisse de 18 Budweiser au prix minimum. C'est le temps d'inviter la famille et les amis avec la caisse de 18 Budweiser au prix minimum. Couche-tard, ça fait votre journée. 18 ans et plus, détails en magasin.
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com.
Cette année à Pâques, le chocolat passe au niveau supérieur chez Croque-en-Bouche. Laissez-vous surprendre par le talent de notre chocolatière Amy. Le Croque-en-Bouche, passionnément gourmand. La météo présentée par Kinatex. Physiothérapie, ergothérapie en santé mentale, massothérapie, entraînement. Nos services multidisciplinaires s'adaptent à vos besoins. Kinatex, fait pour le vrai monde.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase. À Boulevard 102.1.
On en jase, ton émission d'actualité sur les ondes de Boulevard 102.1. Ah, j'ai hâte de voir cette navette-là décoller ce soir, 18h24. T'as manqué ça, Boulevard.fm, nos meilleurs moments. L'entrevue avec Robert Lamontagne, astrophysicien chargé de cours à l'Université de Montréal, sera disponible après l'émission. Je vous rappelle qu'à la météo, c'est pas jojo. Il risque d'avoir de la pluie verglaçante en fin de journée. Demain, c'est une belle journée cependant, alternant soleil et nuages avec 3 degrés, mais vendredi, pluie neige qui est de retour à 5 degrés. C'est qu'on va être en bas du point de congélation au niveau de la nuit. C'est pour ça qu'il y aura peut-être de la neige en matinée. Je rappelle que le gaz est rendu 1,89 et que c'est le long week-end de Pâques et que Mathias Turcotte va nous faire un excellent dossier là-dessus demain matin dans Marceau le matin. Manque passé à 7h30. Marceau le matin, c'est de 6h à 10h. Le point de Max qui nous devance de 10h à midi. On en jase de midi à 14h. Et Gravel dans le retour de 14h à 18h cette semaine. C'est avec Denis Audrey et Gab Marino parce que Véronique Bergeron est en vacances. On va le rejoindre immédiatement. C'est notre chroniqueur politique, notre très bon vulgarisateur d'actualité. Il est avec nous les mercredis, également le vendredi en format de discussion avec Farnel Morisset. Lambert Drainville, comment vas-tu?
Super bien. Il commence à faire chaud, il commence à faire beau à Montréal. Je ne sais pas, à Québec, ça ressemble à quoi?
Non, nous autres à Québec, c'est pas beau.
C'est de la neige. On pensait que c'était un poisson d'avril avec les grésils ce matin, mais non, c'est ça.
Verglas ce soir. Ça va pas bien, mais hey, on va s'en sortir. On garde le moral. Good vibes only, comme dirait un animateur de radio à Boulevard 102.1. Lambert, t'as été très proche de Lionel Carmat. T'as travaillé avec le ministre Carmat. Ça doit pas te surprendre qu'il revienne au bercail pour la dernière semaine de François Legault. C'est un être humain exceptionnel, M. Carmat.
Oui, non, ça me surprend pas. Je t'avoue que j'analyse toujours la politique, évidemment, d'un point de vue politique. Le gain politique pour M. Carmat de revenir, je le vois pas du tout, là, tu sais, surtout que c'est pas réglé avec les médecins spécialistes.
En effet, il est complètement absent. Le point politique n'est pas là pour tout, là.
Non, c'est ça. Fait que, bon, je t'avoue que je le comprends pas trop, là, le geste là, de revenir là pour il va rester quoi? Là, le nouveau chef va arriver, il risque de proroger quelques semaines pour s'installer dans ses nouveaux souliers.
On a-t-il des nouvelles de sa famille, Lambert, là-dessus aussi? Parce que la décision avait été prise, entre autres, parce que sa famille n'appuyait pas ce nouveau projet de loi avec les médecins. C'est toujours pas avorté de façon complète.
Ben, j'ai pas d'informations par rapport à qu'est-ce qu'il pense de son retour à la CAQ. Ce que je sais, par contre, c'est que les relations sont bonnes. Là, Monsieur Carmat, on est demeuré en contact. On se voit encore une fois de temps en temps dans des contextes sociaux. Et il n'y a jamais eu, là, même au plus fort de son départ du gouvernement, là, il se faisait arrêter dans la rue pour se faire demander là, « Parlez-vous encore à votre fille? Parlez-vous encore à votre femme? » Puis, tu sais, ça n'a jamais atteint des niveaux comme ça. Là. Il y a toujours eu une bonne ambiance à la maison. Fait que je pense que c'est toujours le cas. C'est la seule information que j'ai là, à ce niveau-là. Maintenant, c'est une décision, comme tu l'as dit, Jeff, qui est humaine. Tu sais, on se rappelle la scène quand il a quitté, comment M. Legault, on avait l'impression qu'il y avait un diro qui avait roulé dessus, comment déboussolé là, du départ de son ancien voisin, son ami, leur femme, son deux très bonnes amies également. Pour lui, qui en est à ses derniers milles comme premier ministre, c'est sûr que c'est un petit baume de le revoir revenir au bercail. Et pour M. Carmat, écoute, ça n'a jamais été un politicien de carrière, là. Tout le monde s'entend là-dessus. Ça a toujours été quelqu'un qui a fait de la politique vraiment pour les enfants, pour les populations plus vulnérables et qui a toujours fait passer l'humain avant toute chose. Et c'est encore le cas cette fois-ci.
En effet, donc Lionel Carmat qui est de retour pour la dernière semaine de François Legault. Il y aura un dernier hommage à François Legault lors du congrès à la CAQ le 12 avril le prochain, avant justement que le nouveau ou la nouvelle chef soit élu. Lambert Drainville, j'en ai parlé mardi dernier avec Étienne-Alexandre Beauregard, mais c'est un mouvement qui se continue cette semaine. Le communautaire est à bout. Moi et Étienne-Alexandre, on avait une différence d'opinion sur le financement des organismes communautaires, à savoir qu'ils étaient beaucoup par projet, moins à la mission, puis c'était difficile pour eux justement de répondre à tous les besoins de la clientèle. Toi, de ton côté, qui a été dans la machine justement au niveau des services sociaux, qu'est-ce que tu retiens de ça, du financement des organismes communautaires?
Mais on va revenir sur peut-être le... Disons, qu'est-ce qui pourrait être amélioré du côté des organismes dans un instant, mais je vais commencer par dire que, tu sais, on vit une crise sans précédent là, de la vulnérabilité. Là, qu'on parle de la crise du logement, qu'on parle de la crise de l'itinérance, qu'on parle de la crise au niveau de la santé mentale, les femmes victimes de violences, qu'on parle des files devant les banques alimentaires. Tu sais, ça a atteint un niveau depuis la pandémie qui est assez très, très inquiétant. Et tu sais, quand je parlais à des gens du milieu communautaire, écoute, là, tu t'es embauché, tu fais 19$ de l'heure, c'est moins que travailler au McDonald's, t'as pas de fonds de pension, t'as pas de régime d'assurance. Écoute, on m'a même dit qu'il y a des embauches qui se font. Un des arguments comme condition qu'ils leur donnent pour les embaucher, c'est de leur dire, ben travailler pour nous, on va t'offrir un panier d'aide alimentaire par semaine.
Ben écoute, je confirme, l'envers, là, je donnais des paniers d'aide alimentaire à mes employés parce que j'avais pas assez d'argent pour les payer.
Ben c'est quand même assez spécial de dire que les gens qui s'occupent de donner les paniers aux gens les plus dans le besoin ont eux-mêmes besoin de paniers d'aide alimentaire. Alors, je pense que dans cette réflexion-là, il faut se rappeler que si le communautaire n'est pas là, les gens dont il s'occupe, ils ne vont pas disparaître là, en fumée, ils ne s'envoleront pas. Ils vont se tourner vers quel réseau pour compenser? Évidemment, le réseau public et les services sociaux et le réseau hospitalier. Et donc, ça va coûter plus cher à qui, Jeff, si on n'investit pas dans le communautaire? Ben, ça va coûter plus cher à nous autres, les contribuables. Puis il y a une étude de l'IRIS qui est mentionnée d'ailleurs par les porte-parole du mouvement là, le communautaire à bout, qui dit que d'investir 1$ dans le communautaire permettrait au bout de la ligne de sauver jusqu'à 12$ en termes de coûts de soins de santé sur le long terme. Fait qu'il faut arrêter de voir le communautaire comme une dépense. C'est vraiment un investissement. Et on l'a vu durant la pandémie, comment si ce n'est pas du communautaire, on serait foutument mal pris. Et donc, moi, je pense qu'il est temps, oui, de mettre plus d'argent, mais moi, je mets encore plus l'emphase sur la prévisibilité du financement parce que c'est difficile présentement pour ces organismes-là, pour plusieurs d'entre eux, de se gouverner quand tu essaies de bâtir des projets, des trajectoires de services qui vont aider les gens à sortir de la rue, par exemple, sans... qu'ils sachent ben, combien qu'on va avoir d'argent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. T'sais, c'est un peu à la pièce, c'est au projet. Souvent, le financement, même lorsqu'il est récurrent, ne comble même pas l'inflation. Alors, plus le temps passe, ben, moins ton argent vaut cher. Je pense qu'il faut être très, très conscient que le communautaire n'est pas seulement une soupape des deux autres réseaux, mais il faut le voir comme au même niveau que le réseau de la santé, au même niveau que le réseau des services sociaux. C'est très important. Puis je ne sais pas si tu as écouté la conférence de presse d'Étienne Grandmont à l'Assemblée nationale hier oui. Ou avant-hier, mais il y a des gens qui ont pris la parole du milieu communautaire puis ils parlaient de leur vie au quotidien, là, puis c'est vraiment difficile.
Je me demandais, vas-y, les gars, par rapport à tout ça, tu sais, si l'argent qui est donné par des quidam, là, vous et moi, a un plus fort impact que l'argent qu'on peut donner en général à une organisation qui va redistribuer. Jeff, tu as travaillé là-dedans, toi, tu as été au sein du gouvernement, Lambert. Est-ce que c'est plus favorable pour ces organismes-là qu'on donne directement aux organismes?
Ben, vas-y, Jeff.
Oui, c'est plus favorable parce que ça passe pas par une strate additionnelle administrative. Là. Fait que c'est sûr que si tu as un don, exemple, de 100$ à faire, ben, t'es mieux de le faire directement à l'organisme que tu veux encourager que de le faire à Centraide, par exemple. Ceci dit, un organisme comme Centraide a sa raison d'être parce que sans Centraide, ben, ces petits organismes-là auraient pas les leviers nécessaires, la visibilité nécessaire pour aller chercher les montants.
Exact. Puis ça aussi, c'est l'autre partie. T'sais, oui, le gouvernement, mais moi, je le mentionne souvent, il faut arrêter de voir le gouvernement comme le seul bailleur de fonds dans des situations comme ça. T'sais, je pense qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen, on a une responsabilité. Puis dans les années 90, c'était 1 personne sur 4 qui donnait en don aux organismes communautaires au Québec. Maintenant, on est à moins 1 personne sur 5. Et on est de loin la province au Canada où les gens donnent les moins gros montants.
Mais il y en a qui ont transposer aussi dans les bénéficiaires, là, ceux qui
ben,
donnaient.
C'est ça.
Oui. Puis il y a des gens aussi, je pense, qui se disent ben le gouvernement donne plus qu'avant. Donc, moi, c'est moins nécessaire que je donne. Ils vont venir le prélever directement de mes impôts. Mais comme Jeff disait, c'est des sommes d'argent hyper importantes pour ces organismes-là parce qu'ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble. Ils ne doivent pas faire toutes les démarches bureaucratiques pour avoir les sommes et par la suite avoir les mains liées sur la façon aussi de pouvoir utiliser ces sommes-là. Fait que je pense que c'est important aussi de porter cette réflexion-là au niveau personnel, de dire, bien, on est tellement fiers au Québec de notre filet social, bien, si on en est si fiers, il faut se rappeler que le communautaire est un pilier majeur de ce filet social-là.
Lambert Drainville, tu n'aurais pas pu mieux dire. Je vous invite à contribuer à l'organisme au coin de chez vous qui aide les gens défavorisés. C'est le mouvement. Le communautaire est à bout, mais il ne faut pas juste que ce soit un mouvement qu'on oublie dès la semaine prochaine, mais bien qu'on continue à travailler tous ensemble. Lambert, merci beaucoup. Vendredi, l'émission d'En Jase fait relâche parce que c'est le long week-end de Pâques. Cependant, Pascal CV et Mathias Turcotte vont être là le matin pour l'actualité ne prend pas congé. Fait que peut-être qu'ils vont vous organiser de quoi avec Farnell Morisset à une petite heure matinale.
On a toujours des choses à jaser avec Farnell.
Yes! Salut Lambert! Merci beaucoup pour ta chronique. C'est très apprécié. Yeah. Lambert Drainville qui est avec nous à chaque mercredi et vendredi à l'émission d'En Jase. Mercredi en chronique individuelle, vendredi en discussion avec Farnell Morisset. Excellent texto qui est rentré. C'est ce qui arrive lorsqu'on pense que des projets économiques changeront quelque chose. Nordvolt, ça clique, le tramway. Notre économie nous tuera. Je ne vois pas comment ça pourrait faire autrement lorsqu'on pense juste à la rentabilité. Il n'y a aucun projet social ou communautaire qui est intéressant parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Et pourtant, on aide tellement de gens et on vient tellement économiser en permettant aux communautaires de prendre soin de ces gens-là en bout de ligne.
Communautaire, puis encore là, on peut faire un lien avec la DPJ. La jeunesse de demain, c'est nos travailleurs de demain. S'ils sont poqués très jeunes, puis qu'on n'est pas là pour les chapeauter, ce sera quoi pour la suite? Bien, souvent, ça arrive avec des problèmes supplémentaires. C'est pas contre eux, c'est juste la roue malchanceuse de la vie. Oui. Puis ça, si on n'investit pas aussi là-dedans, puis on fait pas bien les choses, pour faire un pont avec notre entrevue
en effet.
Avec deux influentes au niveau de la protection de la jeunesse dans l'émission aujourd'hui, entre autres Nancy Audet, bien, c'est de ne pas s'occuper de la suite. Là.
Excellent lien, Pascal. Tu nous parles de quoi, Pascal, après la pause?
De reprenariat.
Ah, ça, c'est intéressant.
Il y a plein d'entreprises dans la prochaine année qui vont devoir vendre parce que les entrepreneurs, ont peut-être pas le choix dans le contexte économique, ils ne sont plus capables.
Ouais.
Ils vont vendre à qui? Y ont-tu prévu leur relève?
Ouais.
Est-ce que ce sera des entreprises étrangères? Beaucoup. Est-ce que ça va nuire à notre économie? Beaucoup. Et ça, c'est un fléau dont on parle peu, mais qui a aussi beaucoup à voir avec notre économie.
OK, oui, avec nos PME qu'on ne prend pas assez soin au niveau du gouvernement. Donc, on parle de ceci après la pause, puis je reviendrai sur le match du Canadien de Montréal hier, une belle victoire à Tampa Bay. Il est présentement 13h43 minutes. C'est l'émission d'En Jase, son rendez-vous d'actualité de l'heure, du lunch, où on traite des plus grands dossiers, des plus grands sujets d'actualité, puis souvent un petit peu à l'avance même des médias traditionnels. On fait ça, nous autres. Donc, c'est des bonnes raisons d'écouter On en Jase. Une autre bonne raison, c'est le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi, de midi à 12h30, et ça se retrouve sur la page YouTube de Boulevard. À chaque jour. Donc, si tu l'as manqué, tu t'en vas sur la page YouTube et tu vas pouvoir écouter le caucus avec Antonine Iaccarini. Ligue nationale, hier soir, il y avait plusieurs matchs importants. Pascal, le Canadien a encore gagné. Une sixième victoire de suite. Victoire de 4-1 du Canadien de Montréal. 47e but pour Cole Caulfield. 36 arrêts pour Jacob Dobesch. Le Canadien pointe maintenant seulement 2 points du Lightning de Tampa Bay du deuxième rang de la division avec 8 matchs à faire en saison régulière. C'est très excitant. Les Bruins de Denis Gravel l'ont emporté également 6-3 sur les Stars de Dallas. Ça vient pratiquement assurer une participation des Bruins aux séries éliminatoires. Ils sont la première équipe repêchée. Victor Arvidsson, un tour du chapeau, 3 buts pour lui. Les Sabres de Buffalo ont pris seul le premier rang de la division Atlantique avec une victoire de 4-3 sur les Islanders de New York. Dure défaite pour les Sénateurs d'Ottawa 6-3 face aux Panthers de la Floride. Les Sénateurs sont toujours exclus des séries. Et même principe pour les Pingouins qui ont perdu 5-1 sur les Red Wings. Donc, c'est les Red Wings qui sont en difficulté pour une participation aux séries. Ce soir, Ligue nationale, il n'y a pas de match dans l'Est. C'est seulement des matchs dans l'Ouest. Et pas grand-chose d'intéressant, sinon que le duel à 21h entre les Ducks d'Anaheim et les Sharks de San Jose. Semaine nationale du reprenariat, Pascal. Est-ce qu'on est rendu là parce que c'est très important, on doit s'y attaquer?
On n'est pas dans le genre de semaine festive. Oui, si ça va bien pour toi, puis tu as une entreprise, puis tu as déjà pensé à qui va reprendre les rênes de ton entreprise par la suite. Mais on a créé ça, puis on met l'emphase cette semaine là-dessus parce que c'est important. Ça va énormément nuire à notre économie si ça continue de rouler comme ça roule. Environ la moitié des faillites de PME au pays, ça survient ici, au Québec. La moitié. Les entrepreneurs vivent une solitude extrême. Il y a des problèmes de santé mentale plus répandus que dans le reste de la population. Puis c'est pas une statistique là, qui est abstraite. Là. On est vraiment dans quelque chose où on n'ose plus regarder les chiffres parce que ça vient stressant pour certains. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, deux choses. Soit on décide qu'on ferme tout simplement, ou on revend au plus offrant, au plus rapidement. Puis des fois, c'est dans l'intérêt de pays à l'extérieur.
Bien, c'est ça que j'allais dire. Ça, si je vends au plus offrant, ça va être les Chinois qui vont nous acheter encore.
Bien, Danny Pelletier est un des intervenants avec qui j'ai parlé sur le sujet. C'est le premier vice-président au placement privé puis investissement d'impact au Fonds de solidarité FTQ. Eux, ils s'attaquent beaucoup à la problématique actuelle. C'est un sujet qui est hyper, hyper important actuellement, surtout pour notre économie.
C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Lorsqu'on regarde les chiffres de repreneuriat Québec là, qui sont sortis récemment, on parle de près de 16 000 entreprises privées qui déclarent vouloir vendre ou transférer leur entreprise au cours des 12 prochains mois.
Et c'est énorme au niveau du nombre d'entreprises qui devront changer de main au cours des prochains mois.
Dans l'année. C'est 16 000.
C'est-tu moi ou ça me rend inconfortable sur notre économie?
Bien, c'est qu'on ne voit pas souvent l'impact que ça peut avoir. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le met en lumière ensemble, parce que ça peut littéralement briser une ville, et je t'en reparle dans un instant. Pourquoi ça peut briser l'économie entière dans des régions? C'est que ça arrive qu'il y a une seule fermeture d'entreprise, Jeff, fait souffrir la région complète. Là, je ne te donne pas des cas juste isolés de mines à quelque part, même si elles comptent énormément. Puis ça, souvent, ça a mené à des villages fantômes la suite. Mais c'est d'une importance capitale de planifier la suite, parce que c'est un entrepreneur sur 10 qui a un plan de relève seulement. 4 sur 10 qui a un entrepreneur qui a un plan de relève seulement. 6 entrepreneurs sur 10 seulement qui pensent que ça prend de 1 à 3 ans pour faire son plan, quand ça prend plus que ça. Fait que souvent, ils sont à la dernière minute. Puis ça prend un plan qu'on appelle en 3 P. Planification, préparation et plan de relève. Qui va être mis en place par la suite. C'est une vague imposante qui est vérifiable, qui est à prendre au sérieux pour notre société.
Avec la vague qu'on voit, si on ne s'attend pas de façon très précise à ce phénomène-là, eh bien là, c'est toute l'économie de ces régions, et ça, c'est vraiment important pour le Québec économique de s'assurer que ces régions-là puissent perdurer en termes de vitalité économique dans le temps.
Ça veut dire qu'on est à l'approche de voir d'autres villes fermées.
Bien, villes qui en vont en souffrir énormément économiquement, qui vont avoir besoin peut-être plus du gouvernement, où l'immigration va être encore un point chaud, où on va faire quoi? Parce qu'on envoie plein d'immigrants en région pour qu'ils travaillent. S'il y a des entreprises qui ferment, moins d'économies qui roulent, moins de possibilités aussi de survivre. Tu sais, je veux dire, juste les petits dépanneurs, les petites épiceries, si tu n'as plus de clientèle, tu fais quoi?
Bien, c'est ça. Tu peux pas survivre. Ça, en passant, je réfléchis à voix haute, là. Chapeau à la ville de Thetford Mines, qui est un modèle d'adaptation pour les personnes immigrantes. Eux, ils ont accueilli énormément d'immigration pour continuer à travailler dans les manufactures et ils ont créé une rue principale, mais multiculturelle.
Ah, super!
Fait que t'as la petite épicerie latino, t'as la petite épicerie chinoise, puis etc.
On a un peu ça à
puis
Québec.
Il y a un bon mix social, c'est vraiment
dans
bien.
Dans certains secteurs, t'as raison, puis ça me rappelle, j'avais fait un reportage avec des travailleurs mexicains à l'île d'Orléans avec les fraises, puis eux, une fois par semaine, il y a un autobus scolaire qui allait les chercher, là, ils s'organisaient, puis ils venaient dans les boutiques mexicaines chercher leurs produits d'importation, mais quand même, eux, ça leur ramenait à leur pays aussi. Là.
C'est vraiment une belle initiative.
Des pays étrangers qui veulent mettre la main sur ces entreprises-là, c'est loin d'être anodin et c'est essentiellement chaque jour. Il y a souvent deux choix, comme je te disais, on ferme ou on vend rapidement, donc des entreprises d'ailleurs qui en profitent. Mais c'est qui convoite nos entreprises?
Bien, c'est sûr que ça va dépendre aussi des industries. Hein. Si on regarde, par exemple, dans le domaine agricole, on sait que les pays asiatiques et évidemment la Chine sont très présents. On le voit notamment avec les terres qui permettent de faire du grain, mais aussi avec certaines fermes laitières, etc. Ce qui est vraiment pour le côté plus industriel, là, ça va vraiment être les Américains, parce que souvent, il y a un enjeu, en fait, avec la capacité à exporter certains produits et le fait d'être voisin des États-Unis fait qu'on est capable, justement, de desservir leur marché. C'est pour ça qu'ils vont aller plus vers ce type d'industrie.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qui se spécialise depuis 5 ans dans le repreneuriat parce qu'il voyait la vague venir aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle des entreprises qui sont convoitées par les Américains, surtout au niveau manufacturier, celles qui sont convoitées au niveau chinois par surtout l'agriculture. Mais les petites PME, là, qui n'apportent pas nécessairement d'argent pour les Américains ou encore qui ne peuvent pas se faire greffer à une autre entreprise, c'est souvent celles-là qui font faillite, mais qui sont nécessaires à notre économie, à nous. Ça, c'est une grande problématique. Là.
Le fameux sous-traitant, je vais le dire comme ça, d'une grande compagnie qui a des bons liens de confiance avec ces compagnies-là. La tête dirigeante part, il n'y a personne pour prendre la relève. L'entreprise meurt parce que les grandes compagnies vont peut-être se tourner vers une PME qui est plus près d'eux. Mais les faisait confiance avec celle-là au Québec parce que le lien d'affaires était créé.
Par exemple, c'est une entreprise qui embauchait ici,
oui.
qui payait taxes et impôts,
ben oui.
qui revitalisait un secteur territorial,
Exactement.
Qui faisait rouler d'autres économies avec l'achat de matières premières, avec les commerces autour, juste un employé qui va dîner au resto d'à côté, ça compte. Ben on voyait que les fonctionnaires ici à Québec. Puis c'est une réalité de reprenariat qui a énormément changé avec le temps. T'sais, j'ai posé la question à Pierre Graff. Dans le temps, tu n'avais presque pas le choix. Si tes parents étaient en entrepreneuriat, ben, tu prenais les rênes de l'entreprise, que ça te passionne ou pas de faire des bouchons de bain, toi. Si ça ne te passionnait pas, c'est pas grave. Maintenant, tu te mettais à faire des bouchons de bain dans ta vie professionnelle adulte. C'était presque automatiquement les enfants, mais ça a beaucoup changé.
Exactement. Avant, il y a plus de la moitié, bien encore aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises sont familiales au Québec. Par contre, avant, c'était un peu quelque part obligatoire pour les enfants de reprendre les entreprises. C'est plus le cas maintenant. Et donc, puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités de choix de carrière, eh bien, ils doivent se tourner vers l'extérieur. Et malheureusement, dans ce temps-là, ben, c'est sûr qu'on a une culture peut-être du repreneuriat qui est un peu moins présente. On pensait plus à démarrer des entreprises qu'à reprendre des entreprises. Ça change doucement, mais ça fait qu'on a quand même un enjeu. Et surtout qu'en plus, les boomers, qui sont la génération qui cède actuellement, ont tendance à vouloir cacher le fait qu'ils vont céder leur entreprise dans un horizon relativement proche. Et ça, c'est un immense enjeu pour l'économie du Québec.
J'imagine que le nombre aussi d'enfants qu'on a. Tu sais, à l'époque, j'ai une entreprise, mais j'ai fait 8 enfants. Bien, il y a plus de chances. Puis là, c'est très statistique, là, mon modèle.
T'en as un qui soit intéressé à faire des bouchons de bain.
C'est ça. Oui. Si j'en ai deux, puis il y en a un qui veut rien savoir de l'entrepreneur. Puis l'autre veut savoir de quoi, mais il y a tellement d'idées dans sa tête que ça ne tente pas de faire les bouchons de bain. Bien là, tu te retrouves le bec à l'eau, c'est le cas de le dire.
Il y avait aussi, par contre, une hiérarchie. Le premier ou la première, surtout le premier de famille, était la personne qui devait serrer les dents, là, comme dans une famille royale qui devenait le roi après avoir été prince. Puis que si c'était le premier gars de la famille, ben c'était la septième merveille du monde, enfin, tu sais.
Ouais, là, la mère disait, « Toi, sache là, que quand ton père a vu que t'étais un petit gars, il a dit, « Lui! » C'est lui qui reprend l'entreprise!
C'est toi qui vas gérer le royaume, ouais, le patrimoine familial. Il y a quelque chose qui a changé aussi, selon Pierre Graff, c'est qu'il y a une fausse mentalité autour du fait d'être discret. Quand on veut faire passer l'entreprise aux mains de quelqu'un d'autre, ça peut vraiment nous nuire de ne pas en parler, de ne pas planifier. Il y en a qui ont des fausses croyances autour de ça. Puis on en jasait avec l'économiste de formation Nathalie Rivin dernièrement de l'école entrepreneurship de Beauce qui nous disait, un, faut le dire, parce qu'il y en a qui veulent prendre les rênes d'une entreprise, mais ils ne savent pas qui est disponible. Fait que si on n'en parle pas, ben on échappe bien sûr des candidats intéressants. Il faut aussi intéresser ces jeunes-là un peu plus.
Oui.
Il y en a moins intéressés. Mais quand on parle de fausses croyances, voici Pierre Graff.
Il y a une fausse croyance que si on ne dit pas qu'on cède l'entreprise prochainement, on va perdre des clients, des fournisseurs, on va perdre peut-être même des employés. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que si on prépare bien son plan de transfert, si on identifie sa relève, qu'on se laisse le temps de bien transférer l'entreprise, ben, ça va rassurer toutes ces personnes-là et ça vraiment ajoutera beaucoup de chances de succès à la pérennité de l'entreprise après le transfert.
On a toute cette crainte-là parce qu'on dit si je démontre que là, je recherche quelqu'un, il y a peut-être des gens qui vont penser que je suis pas en santé financière. Tu sais,
il y a plein de choses. Oui. Il y a l'apparence de ça. Il y a le fait que certaines entreprises qui font affaire avec toi vont peut-être se dire « Ouf, là, ça va-tu fonctionner le repreneuriat? » Fait que je suis peut-être mieux d'aller ailleurs pour être sûr qu'il y ait une longévité dans mon partenariat d'affaires. Fait que le fait de l'annoncer à ses clients, de le dire, ça crée une confiance, une stabilité, de présenter les prochains qui vont prendre les mains de l'entreprise aussi. Ça fait vraiment toute une différence. Puis quand je te parlais avec Dany Pelletier de cette avance-là qu'il faut prendre, hein, plus d'un an, plus de 3 ans des fois, faire un plan d'intervention pour le reprenariat, Dany Pelletier qui est à la FTQ, pour eux, ils ont des manuels, ils ont des façons de faire, ils sont là pour chapeauter les entrepreneurs. Si vous posez des questions, allez-y. Du côté de la FTQ, ils vont vous aider. Si vous êtes jeune, vous voulez être en entrepreneuriat, mais il n'y a personne dans votre famille qui font des bouchons de bain, allez voir du côté de l'entrepreneurship de Beauce, l'école. Ils vont vous mettre en contact avec des gens d'affaires. Mais surtout, encourageons aussi les genres de profils qui ne sont pas types à l'école, ouais, mais qui ont des bonnes visions puis une tête exceptionnelle pour réussir en affaires.
Ça, c'est un excellent point. Encourageons ces jeunes-là justement à persévérer parce que on va avoir besoin d'eux, il n'y a pas de doute. Semaine nationale du reprenariat, on le rappelle. Alors, dossier très, très, très important. 16 000 entreprises dans les prochains mois au Québec qui vont changer de main. Je pense à ça, puis j'ai des craintes pour notre économie, fait que j'espère que tout va bien se passer.
C'est le point majeur là-dessus, moi aussi, j'ai des bonnes craintes.
Ah, vraiment. Rappelle-nous, Pascal, en terminant, les deux rendez-vous importants ce soir qui vont se dérouler au sud de la frontière.
Je commence avec celui de Donald Trump, OK? Le président américain doit s'adresser à la nation ce soir, 21h. Je commence avec ça parce que c'est un peu moins jojo. Hein,
check bien ça, check bien ça. Je vais t'imiter Donald Trump, mais en français, OK? C'est extraordinaire ce qu'on fait. La guerre en Iran, on a anéanti
l'Iran. On a le pouvoir sur
l'Iran.
Depuis
que je suis au pouvoir, l'économie n'a jamais aussi bien été. OK, c'est beau, j'arrête. Je vais ennuyer les gens.
Ça se peut très fortement que ça ressemble à ça. Il a déjà affirmé que les États-Unis pourraient se retirer du conflit très bientôt. Il évoque un délai de 2 à 3 semaines, sans condition liée à un accord. Du côté du nouveau régime iranien, on est moins radicalisé, mais on vient de demander le cessez-le-feu aux États-Unis. On examine la question parce qu'on veut que le détroit d'Ormuz sera libre et sécurisé avant ça. C'est un peu les conditions des États-Unis. Sinon, super rendez-vous. Et c'est là que c'est le fun. À vos écrans, mesdames et messieurs. Et il y a déjà un live là-dessus qui est en cours sur les réseaux sociaux. C'est la mission Artemis 2 de la NASA. Ça doit décoller aujourd'hui, 18h24. Et ça marque le premier vol habité en direction de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 72. C'est en Floride. Et il y a le Canadien Jeremy Hansen à bord de la capsule Orion. Premier Canadien.
On vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute de l'émission On en jase sur Boulevard 102. On sera de retour demain midi, moi-même Jeff Fortin avec Pascal CV et Antonine Iaccarini dans le caucus. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis, Audrey et Gab Marino. Et sur ce, passez un très bel après-midi.
C'est tout ce que vous méritez.
Et
à demain.
Voilà, à demain.